La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet et je suis pasteur à l'église adventiste Gospel Célébration qui se réunit à Colomiers. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur la question des deuxièmes chances. Après un échec, qui n'a pas aspiré profondément que lui soit donnée une deuxième chance? Avant d'entrer dans notre histoire biblique, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui aurait tellement désiré recevoir une deuxième chance. Il est né en 1853 en Hollande. Dans sa famille, son père était le seul qui n'avait pas réussi socialement. C'était un pasteur et ce n'était pas une très bonne situation. Comme il avait toujours été fasciné par les tableaux, son père l'a envoyé chez l'un de ses oncles pour devenir marchand à son tour. Mais après une déception amoureuse, seul au milieu de la joyeuse foule de Noël, son désespoir lui a fait repenser au Dieu de son père. Il s'est mis frénétiquement à lire la Bible et à fréquenter les églises. Près de Dieu et des hommes qui adoraient, il se sentait moins seul. Mais il se sentait toujours si coupable d'exister. Personne ne lui avait dit que Jésus pardonne gratuitement. Alors, pour se racheter, il a découvert sa vocation. L'amour que personne ne lui avait donné, il a décidé de le donner lui-même de tout son cœur aux pauvres et aux déshérités. Il a commencé des études de théologie, mais il a été découragé. Ensuite, il a essayé d'entrer dans une école d'évangéliste, mais il a été recalé au bout de 2 ans d'études. Alors, il a décidé d'y aller tout seul. Et il s'est mis à prêcher dans la rue. Au début, on le traitait de fou, mais peu à peu, les gens ont commencé à s'arrêter et à l'écouter. Une organisation d'évangélisation, en l'apprenant, a fini par lui donner un poste d'évangéliste à l'essai pour 6 mois dans une région minière. Au début, les mineurs se moquaient de lui et l'insultaient, mais il ne s'est pas arrêté. Obéissant à la lettre aux ordres de Jésus, il a commencé à donner son argent, ses habits, à visiter les malades, les personnes âgées. Il se dépensait sans compter. Il ne mangeait ni ne dormait pratiquement pas. Les ouvriers commencèrent à écouter cet homme qui parlait si mal, mais qui était si passionné. Cet homme était différent. Il a fini par retirer ses habits de pasteur pour des habits de mineur. Petit à petit, son pasteur et l'organisation d'évangélisation ont commencé à s'opposer aux jeunes évangélistes. Pour eux, un pasteur devait garder sa dignité, ses distances, sinon il déshonorait la religion. Un jour, il s'est confessé en pleurant à un enfant qu'il tenait dans les bras. Il lui a dit « Mon petit, depuis que je suis au monde, je me sens comme dans une prison. Tout le monde me prend pour un inutile. Et pourtant, j'ai quelque chose à faire. Je sens que je suis né pour faire quelque chose que personne d'autre que moi ne pourrait faire. Mais quoi ?» Entre 2 prédications, il dessinait ces hommes que personne ne voulait regarder. Au bout de 6 mois, le comité lui a retiré sa mission sous prétexte qu'il ne savait pas parler. Alors qu'il faisait tristement ses bagages, les mineurs et les ouvriers pleuraient. Alors, il a cru que Dieu l'avait abandonné. Il s'est mis à peindre son mal de vivre et sa soif d'absolu. Quelques années plus tard, il a commencé à avoir des crises de folie. Dans une de ces crises, il s'est coupé une oreille et il a été interné. Il a fini par mettre lui-même un terme à ses jours, à l'âge de 37 ans. Mais il a laissé des peintures. Aujourd'hui, ses tableaux se vendent à des millions d'euros. Il s'appelait Van Gogh. Van Gogh, le pasteur raté et le grand peintre. Vous connaissez peut-être ces tableaux qui représentent des tournesols, des champs, des ciels tourmentés. Et son cri résonne encore. Tout le monde me prend pour un inutile et pourtant j'ai quelque chose à faire. Qui veut bien me donner une chance ? L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est celle d'un jeune homme qui a reçu, lui, une deuxième chance. Nous la trouvons dans le Nouveau Testament. La première fois qu'on entend parler de ce jeune homme, c'est à Jérusalem, dans Actes, chapitre 12, verset 12. On raconte qu'il y avait une église qui se réunissait pour prier dans la maison d'une certaine Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. À l'époque, il était courant pour les Juifs d'avoir un nom de naissance hébreu et un surnom grec ou romain pour les affaires civiles. Et donc Jean s'appelait aussi Marcus. Au moment où l'on entend parler de lui pour la première fois, on est dans la maison de sa mère et c'est un moment critique. Ce sont les premiers temps de l'Église après le départ de Jésus et il commence à y avoir des persécutions. L'apôtre Pierre vient d'être emprisonné à cause de sa foi et il attend son exécution, enchaîné entre deux gardes. Les chrétiens sont réunis chez Marie pour prier pour lui et intercéder. Il se trouve qu'au milieu de la nuit, quelqu'un a frappé à la porte et c'était Pierre, Pierre qui avait été libéré par des anges. Le jeune Jean-Marc était là, il a été témoin de cette libération miraculeuse, il a été touché par ces moments forts de ce qui se vivait chez lui. Quelque temps plus tard, un homme est passé à la maison, un certain Barnabas. Alors ce n'était pas un inconnu. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 10, on apprend que c'était le cousin de Jean-Marc. Il était avec un autre homme que Jean-Marc ne connaissait pas personnellement, mais tout le monde avait entendu son histoire. C'était un pharisien qui avait persécuté les chrétiens dans le passé et qui un jour avait été touché par le Seigneur. Tout le monde avait un peu peur de lui, mais comme c'était Barnabas qui l'avait amené, Jean-Marc était rassuré. Cet homme s'appelait Saul. Barnabas et Saul étaient de passage pour apporter un don de l'église d'Antioche aux pauvres de Jérusalem. Avant de repartir, Barnabas est allé frapper à la porte de la chambre de Jean-Marc et il lui a dit « Est-ce que tu voudrais venir avec nous à Antioche? Tu pourrais nous aider dans la mission qu'on fait là-bas ?» Pour Jean-Marc, c'était une occasion à ne pas manquer. Être au cœur de la mission, avec son cousin et Saul. Jean-Marc a donc chargé toutes ses affaires et il est parti à l'aventure. Nous lisons dans Actes chapitre 12, verset 25 que « Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, ils s'en retournèrent et amenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. » Jean-Marc commence donc sa nouvelle vie à Antioche avec ses deux accompagnants. Un jour, l'église d'Antioche reçoit la conviction du Saint-Esprit que Barnabas et Saul doivent être envoyés en mission. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 13, les versets 1 à 5. Tout naturellement, Jean-Marc les accompagne. Mais là, c'est une expérience différente qui l'attend. Jusque-là, la mission était assez facile. Jean-Marc aidait Barnabas et Saul dans des églises bien établies comme Jérusalem ou Antioche. Mais là, c'était partir vers l'inconnu pour évangéliser dans des endroits sans église, où on n'avait jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Alors, ils se sont demandé par où commencer et Barnabas a suggéré d'aller sur l'île de Chypre. En effet, Actes chapitre 4, verset 36 nous apprend que Barnabas était originaire de cette île. Il y avait grandi, il avait sûrement des contacts et de la famille sur place, c'était donc assez pratique pour commencer. On peut penser que, de la même manière, Marc serait à l'aise, vu qu'il était aussi de la famille, il devait aussi connaître des gens. Ils ont donc navigué jusqu'à Salamine, à l'est de l'île, et ils ont longé la côte en parlant de Jésus dans les synagogues jusqu'au port de Paphos, le port qui se trouve de l'autre côté de l'île. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Ils ont rencontré un homme qui disait être un prophète, un certain Élimas. En réalité, c'était un sorcier, un magicien, un faux prophète. Lorsque la troupe d'évangélistes a reçu une lettre d'invitation de la part du proconsul de l'île, Élimas s'est invité avec eux. Et alors que Saul et Barnabas parlaient aux Romains et à ses invités, Élimas les a interrompus en plein discours. Il s'est mis à parler au proconsul pour l'empêcher de croire. Et nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 9. « Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et dit « Espèce de menteur, tu trompes tout le monde. Fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. » La volonté du Seigneur est droite, et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devint sombre pour Élimas. Il fut dans la nuit. Il tournait en rond, il cherchait quelqu'un pour le conduire par la main. Et juste après, au verset 13, nous lisons, Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils gagnèrent Pergé en Grèce. Jean-Marc les quitta à cet endroit et retourna à Jérusalem. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a poussé Marc à partir? Alors peut-être que ce qui s'est passé avec Élimas lui a fait peur. Il s'est rendu compte qu'il y aurait de l'opposition, des difficultés. C'était trop dur pour Jean-Marc. Quand ils sont arrivés au port de Perge, il leur a annoncé qu'il retournait à la maison. Et Paul et Barnabas n'ont sûrement pas compris. Eux étaient tellement joyeux de la grande victoire qui avait été remportée à Chypre, et voilà que Marc les lâchait. On peut imaginer les pensées de Marc sur le bateau en direction de Jérusalem. Je suis vraiment un raté. Dieu m'a ouvert une porte, il m'avait donné un signe et maintenant j'ai fui. J'ai désobéi à Dieu. J'ai déçu mes compagnons, ma famille, l'Église. J'ai raté ma chance. Maintenant c'est fini pour moi. Pendant ce temps, Paul et Barnabas ont continué leur voyage missionnaire et quelques mois plus tard, ils sont de retour à Antioche. Partout en Palestine, on entend parler de leur fameux voyage. Ils ont dû faire face à de l'opposition, ils ont même failli se faire tuer, mais ils ont vécu des miracles et des guérisons, et par-dessus tout, ils ont créé 6 églises. Alors que tout le monde louait Dieu autour de Jean-Marc, chacun de ces récits lui rappelait l'échec de sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous lisons dans Actes chapitre 15, les versets 36 à 40. Je lis. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et qu'il ne les avait plus accompagnés dans leur mission. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul choisit Sylvain et partit après avoir été confié par les frères et les sœurs à la grâce du Seigneur. Quelle drôle d'histoire! Deux apôtres saints et respectables comme Paul et Barnabas qui se disputent. Dans l'Église, on sait bien qu'on va essayer de tout faire pour se mettre d'accord dans un esprit chrétien. Eh bien là, rien à faire, on n'arrive pas à les mettre d'accord au point qu'ils décident de se séparer. Au centre de ces disputes, il y a le jeune Jean-Marc. Dans cette histoire, qui a raison, Paul ou Barnabas? Alors, Paul a raison. Pour Paul, Jean-Marc n'est pas quelqu'un de fiable, il les a abandonnés une fois, ça peut se reproduire. Paul sait que la mission comporte des risques, des dangers, et il a besoin de pouvoir compter sur des compagnons sûrs. C'est la mission qui prime, qui passe avant tout. Quand on s'engage pour le Seigneur, on ne le fait pas à moitié. On ne joue pas avec le Seigneur. Soit on est bouillant, soit on est froid, mais il n'y a pas de place entre les deux pour les tièdes. Jean-Marc a choisi son camp, il a fait le choix de l'équité, maintenant il faut qu'il assume. Paul a raison. Paul, c'est la justice qui parle. Mais Barnabas a aussi raison. Alors oui, Marc, c'est le cousin, c'est la famille, on ne laisse pas tomber la famille. Mais ça va plus loin que ça. Barnabas veut donner une deuxième chance à Jean-Marc. Il n'attend pas que son cousin change pour lui donner une seconde chance. Au contraire, il est convaincu que Jean-Marc a besoin de cette deuxième chance pour changer. Barnabas, c'est la grâce qui parle. En fait, cette histoire nous parle de ce conflit majeur qui se déroule en nous. Je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu. Dieu est juste. Je l'ai trahi, je l'ai oublié, je n'ai pas eu confiance, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fui, j'ai fait du mal, j'ai blessé. Je ne mérite que la même chose en retour, et c'est vrai, c'est juste. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Comme le dit remarquablement Louis Evely, je cite, « Dieu n'a pas attendu que nous soyons dignes pour nous aimer, car nous avons besoin d'être aimés pour devenir dignes. Nous avons besoin d'être aimés pour nous améliorer. Et Dieu nous aime si patiemment, si tendrement, que nous finirons par le devenir. » Dieu a réconcilié sa justice et sa grâce en envoyant Jésus marcher parmi nous, mourir et ressusciter. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'a pas attendu que nous soyons dignes, que nous changions, que nous décidions de devenir meilleurs. Jésus est mort pour des pécheurs, pour nous, et c'est ça qui change nos vies. Jésus nous a révélé le Dieu des secondes chances, et Barnabas avait appris la leçon de Jésus. Mais qui est donc ce Barnabas qui témoigne si bien de la grâce de Dieu? Alors oui, c'était le cousin de Jean-Marc et un évangéliste engagé avec Paul, mais il y a plus que ça. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, on le trouve pour la première fois dans le livre des Actes au chapitre 4 à partir du verset 33. Je lis. Avec une grande force, les apôtres témoignaient que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui avaient des champs ou des maisons les vendaient, ils apportaient l'argent de ce qu'ils avaient vendu et ils le donnaient aux apôtres. Ensuite, on distribuait l'argent et chacun recevait ce qui lui était nécessaire. Il y avait ainsi un certain Joseph, un Lévite né à Chypre. Les apôtres l'appelaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il avait un champ, il l'a vendu, il a apporté l'argent et l'a donné aux apôtres. Voilà comment Barnabas est présenté. C'était un juif de la tribu de Lévi, il était de la classe des prêtres en Israël. C'était quelqu'un de visiblement plutôt riche et quelqu'un de généreux. Et là aussi, on trouve une histoire de surnom. Son vrai nom, c'était Joseph. Mais il y a une différence. Pour Jean-Marc, on a vu que son premier nom était hébreu et l'autre était romain. Et c'est la même chose pour Saul, qui s'est fait appeler par son nom romain, Paulus. Mais le surnom Barnabas n'est pas un nom romain, c'est de l'hébreu. C'est pour ça que Luc, qui écrit le livre des Actes pour des Grecs, rajoute une traduction pour expliquer. Barnabas veut dire « fils de l'encouragement », l'homme qui console, qui exhorte, qui encourage. Barnabas était tellement positif avec tout le monde qu'on a commencé à l'appeler l'encourageur. Mais ce n'est pas tout. Quelques chapitres plus loin, on nous raconte la conversion d'un certain Saul, un extrémiste religieux qui tuait les chrétiens. C'était tellement extraordinaire que personne ne voulait y croire. Les chrétiens avaient tellement peur de lui que personne ne lui ouvrait la porte. Ils croyaient que Paul faisait semblant d'être converti pour s'infiltrer dans le réseau clandestin des chrétiens. Et voilà ce qui nous est raconté dans Actes chapitre 9, les versets 26 à 28. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur raconta aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux et il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. En fait, c'est Barnabas qui a donné sa seconde chance à Paul. C'est lui qui a osé croire que Dieu était capable de transformer quelqu'un comme Paul. Et c'est lui qui a pris le risque d'introduire l'extrémiste repenti chez ses anciennes victimes. Et imaginez, vous êtes sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, et vous allez chercher un SS de la Gestapo qui dit qu'il s'est converti, et vous l'amenez à la réunion de prière où il y a des juifs qui se cachent. Voilà le genre de risque que Barnabas était prêt à prendre pour Paul. Parce qu'il croyait aux secondes chances. Et donc, lorsqu'il insiste pour emmener Jean-Marc avec eux en mission, malgré les erreurs du passé, c'est bien l'encourageur qui est à l'œuvre. C'est celui qui croit que les secondes chances peuvent transformer quelqu'un. Et ce qui est magnifique, c'est que le Nouveau Testament nous montre que ça a marché pour Jean-Marc. En effet, des années plus tard, Paul est en prison à Rome. Il est à la fin de sa vie, il sait qu'il va bientôt être exécuté, et il laisse une sorte de lettre-testament à un certain Timothée. Alors, qui est Timothée ? Comme Barnabas, Paul a pris un jeune sous son aile, il l'a aimé, formé, encouragé. Et voilà ce que nous lisons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 11. « S'il te plaît, fais tout ton possible pour me rejoindre bien vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Crescence est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, il m'est très utile pour le service de Dieu. » Extraordinaire! Alors que Paul est abandonné de tous, il demande à Timothée de le rejoindre avec Jean-Marc. Quelque part en chemin, Jean-Marc, semble-t-il, a persévéré, il s'est affermi, au point que Paul, à la fin de sa vie, lui demande de venir l'aider. Il parle même de lui dans trois de ses lettres. Voilà le résultat de la deuxième chance. Marc est désormais au service de Dieu et il est réconcilié avec Paul. Voilà le résultat de la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes à son service et nous sommes réconciliés avec la justice. Avec Barnabas, nous prenons conscience de l'impact extraordinaire de l'encouragement. Si on y réfléchit bien, sans Barnabas, Paul n'aurait jamais été accepté par les chrétiens. Il ne serait pas devenu apôtre et il n'aurait jamais écrit toutes ces magnifiques lettres qui nous instruisent aujourd'hui. Sans Barnabas, Jean-Marc se serait découragé. Or, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, on apprend que Jean-Marc est devenu aussi un proche collaborateur de Pierre à Rome, au point qu'il l'appelle son fils. D'après des textes de chrétiens des premiers siècles, on pense même qu'il était son secrétaire et que c'est lui qui a écrit l'évangile, qui a inspiré tous les autres évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Marc. Sans Barnabas, il nous manquerait donc toutes les lettres de Paul et le plus ancien évangile, c'est-à-dire la plus grande partie du Nouveau Testament. Sommes-nous conscients de l'impact que nous pouvons avoir en encourageant ceux qui nous entourent? Il y a peut-être un Jean-Marc, un Van Gogh à encourager dans votre vie. Combien y a-t-il autour de nous de pasteurs, de prophètes, de présidents, de prix Nobel et qui ne le savent pas encore? Qui peut savoir le nombre d'êtres qui peuvent ainsi naître si d'autres prennent le temps de les encourager? Et si de l'autre côté, vous vous sentez aujourd'hui plutôt comme Marc, comme Van Gogh, si vous sentez que Dieu vous appelle, recevez cet encouragement. Celui qui vous appelle, c'est le Dieu de la grâce. C'est le Dieu des secondes chances. C'est le moment de lui donner votre vie, ou peut-être de la lui redonner. Et qui peut imaginer ce que Dieu va faire naître de votre vie? Amen. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. La chose arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère. S'accomplira.
s'accomplir.